Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours lors d'une spectaculaire attaque djihadiste dans le nord du Mozambique, tandis que des milliers de personnes continuaient à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence, selon plusieurs sources et témoins. Nathalie Barge nous en parlera. Le porte-conteneur Ever Given, qui obstrue depuis près d'une semaine le canal de Suez, a tourné mais n'est pas complètement à flot, a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole de l'entreprise japonaise propriétaire du navire. Le canal de Suez est bloqué depuis 6 jours par ce gigantesque porte-conteneur, perturbant l'ensemble du commerce maritime et occasionnant chaque jour des milliards de dollars de pertes. Nous y reviendrons avec Michel Joseph. Le docteur Anthony Fauci, conseiller à la Maison-Blanche sur la pandémie du COVID-19, s'est dit inquiet dimanche du plateau observé par le nombre de cas aux États-Unis. Il estime que cela était dû à la levée prématurée des restrictions dans certains États et il craint un risque de connaître une nouvelle vague épidémique, prenant l'exemple de plusieurs pays européens où l'épidémie repart. Intervenant sur la chaîne CBS, il a souligné que ce plateau est dû à des choses comme les vacances de printemps et la levée des mesures de restriction dans certains États, ajoutant « Je pense que c'est prématuré ». Le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé dimanche du pétrole contre des vaccins, alors que son pays, qui fait l'objet de sanctions économiques touchant notamment le secteur pétrolier, fait face à une deuxième vague de coronavirus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué le stockage excessif de vaccins contre le COVID-19 par les pays développés et les a appelés à les partager avec le reste du monde, seul moyen, selon lui, de venir à bout de la pandémie. Dans un entretien avec la chaîne canadienne CBC, M. Guterres a également déploré que le système international COVAX d'aide aux pays défavorisés soit en difficulté parce qu'il y a beaucoup de stockage de vaccins, des limitations aux exportations et que COVAX manque de fonds. La journée de répression la plus sanglante depuis le coup d'État du 1er février en Birmanie, avec au moins 107 personnes tuées samedi, dont 7 enfants, a soulevé dimanche un tollé dans le monde, notamment de l'Union européenne et du président des États-Unis qui ont vigoureusement condamné ces violences. Le président Joe Biden les a qualifiés, ces événements, de terribles et d'absolument scandaleux. La Chine a annoncé des sanctions contre les États-Unis et le Canada en représailles de celles imposées en début de semaine par ces pays face au traitement de sa minorité ouïghour, ce qui, selon Washington, ne fera qu'intensifier la tension internationale sur ce dossier opposant Pékin aux pays occidentaux. Un attentat suicide contre une cathédrale dimanche en Indonésie a été perpétré par 2 assaillants appartenant à un groupe extrémiste pro-État islamique, accusés d'avoir commis d'autres attaques contre des églises, dont une en 2019 aux Philippines, selon la police. Ici aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin, le policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd, entre dans le dur lundi à Minneapolis sous haute tension, près d'un an après la mort de cet Africain-Américain qui a entraîné une vague historique de colère contre le racisme et les violences policières envers les minorités aux États-Unis et dans le monde. Le 25 mai 2020, le policier était resté agenouillé pendant près de 9 minutes sur le cou de Floyd, plaqué au sol et menotté. Sarah Obama, que l'ancien président américain Barack Obama considérait comme sa grand-mère, est décédée lundi matin à l'âge de 99 ans dans un hôpital de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, a-t-on appris auprès de sa fille. La suite de nos informations. Au Mozambique, des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours lors d'une attaque djihadiste d'ampleur à Palma, près de la frontière tanzanienne. Des centaines de personnes ont disparu et des milliers continuent à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence. Des détails avec Nathalie Barge.
Des dizaines de civils ont péri lors de l'attaque initiale mercredi lancée contre la ville de Palma sur trois fronts simultanés. La ville portuaire, située à 20 km de la frontière tanzanienne, est tombée aux mains des djihadistes vendredi soir, après plus de 48 heures de combat. Selon le gouvernement, au moins 7 autres civils ont été tués dans une embuscade vendredi en tentant de quitter un hôtel où elles s'étaient retranchées. Parmi les 180 personnes ayant passé plus de 48 heures assiégées dans cet hôtel, des dizaines sont portées disparues. 80 étaient partis à bord de 17 camions militaires, dont seuls 7 ont pu sortir de la zone de conflit. Plusieurs camions sont tombés dans une embuscade. Les habitants de la ville côtière ont pris la fuite, y compris de nombreux réfugiés qui avaient déjà fui auparavant des attaques djihadistes dans leur village. Un bateau transportant 1400 personnes parti du site d'Afungi est arrivé hier dans la capitale provinciale Pemba. À l'aéroport, les vols réguliers ont été suspendus pour laisser place aux opérations militaires et des opérations d'évacuation sont en cours.
Plus de 360 navires et leurs cargaisons sont bloqués aux extrémités ou dans les zones d'attente du canal de Suez, où un porte-conteneur obstrue le passage maritime depuis mardi dernier. Les efforts se poursuivent pour tenter de dégager le navire géant. Michel Joseph fait le point.
Des centaines de bateaux s'accumulent au large de Port Saïd en Méditerranée, dans les lacs qui ponctuent le canal de Suez et forment même une file dans le golfe de Suez menant à la mer Rouge. Le canal qui voit passer 10% du commerce maritime est bloqué depuis mardi par l'Ever Given, navire de 220 000 tonnes exploité par l'armateur taïwanais Evergreen, ce qui entraîne des retards conséquents dans les livraisons de marchandises. Près de 2 millions de barils de pétrole transite chaque jour par le canal. En réaction au blocage, les cours de l'or noir ont grimpé en fin de semaine. 11 navires partis de Roumanie et transportant 130 000 moutons sont affectés. L'Égypte a envoyé du fourrage et 3 équipes vétérinaires. Plusieurs géants du transport maritime ont dérouté certains de leurs navires par le cap de Bonne-Espérance, mais des navires continuent d'arriver aux abords du canal. En 2020, le canal de Suez a vu passer plus de 50 navires par jour. Il faudrait au moins une semaine pour faire passer tous les bateaux qui sont bloqués.
Dernière minute, le porte-conteneur a commencé à bouger selon les sites de visualisation du trafic maritime Vessel Finder et My Ship Tracking, consulté lundi matin. L'arrière du navire de plus de 200 000 tonnes s'est éloigné de la rive ouest du canal selon ces sites, ce que confirme une source sous couvert d'anonymat au canal de Suez. L'ex-président de Madagascar, Didier Ratsirak, surnommé l'amiral rouge pour son socialisme révolutionnaire, est mort hier à l'âge de 84 ans. Il a été hospitalisé à Antananarivo la semaine dernière pour une grippe. Des médias locaux spéculent sur un éventuel lien avec le Covid-19. Il sera enterré ce lundi, Jean-Roger Pion.
Didier Ratsirak a été président de 1975 à 1991 et de 1997 à 2002. En août 1991, des milliers de personnes marchent sur le palais présidentiel et réclament son départ. Une centaine a péri lors de la contestation qui durera des mois. Finalement battu à la présidentielle de 1993, il est obligé d'accepter la transition réclamée par Albert Zaf qui lui succédera à la tête de l'État. Mais l'ancien officier de marine sorti de l'école navale de Brest en France reviendra au pouvoir par les urnes en 1997. Une nouvelle crise de légitimité l'écarte définitivement du pouvoir. À l'issue d'une présidentielle contestée, des manifestations et affrontements font rage de décembre 2001 à juillet 2002 entre ses partisans et ceux du maire d'Antananarivo, Marc Ravalomanan. Ce dernier est finalement déclaré vainqueur et Didier Ratsirak forcé à s'exiler en France pendant 9 ans. En 2003, le président déchu est condamné par contumace à 10 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics et à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, des peines annulées en 2009. Revenu sur l'île en 2011, il avait tenté de faire un retour à la présidentielle de 2013, mais son nom fut retiré de la liste des candidats.
Les gouvernements du Mexique et du Guatemala ont déployé ce week-end la police et l'armée dans le cadre d'une opération commune destinée à freiner la progression des caravanes de migrants qui tentent de se rendre aux États-Unis. Nathalie Barge.
Le commissaire mexicain chargé des migrations, Francisco Garduño, a déclaré que la présence des forces de sécurité sera renforcée dans l'état de Chiapas, frontalier avec le Guatemala. Les migrants venus du Honduras, du Salvador et du Guatemala y transitent avant d'entreprendre le long et périlleux voyage jusqu'à la frontière américaine. Chaque jour, plus de 3000 migrants entrent illégalement au Mexique. A relevé le commissaire. Les agents seront déployés 24 heures sur 24 tout le long de la frontière avec le Guatemala. Sur les routes et les trains de marchandises qu'empruntent souvent les migrants, ils ont pour mission de maintenir un flot migratoire régulier et de faire respecter les mesures sanitaires. De son côté, le Guatemala va tenter de persuader les pays d'origine des migrants de décourager la formation de caravanes humaines. En février, les États-Unis ont arrêté 100 000 personnes à la frontière avec le Mexique, soit une augmentation de 28% par rapport à janvier. Le président américain Joe Biden a relativisé cet afflux de migrants, estimant que cela arrivait tous les ans et n'était en aucun cas lié à sa politique.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football éliminatoire de la CAN 2022, le Soudan rejoint la phase finale 10 ans après.
Oui, et un de plus qui nous fait du suite sur 24 participants. Les Crocodiles du Nil, champions d'Afrique en 1970, ont battu et éliminé l'Afrique du Sud 2-0 à Omdurman. Ils finissent deuxième du groupe C, derrière des Ghanéens qui ont battu Sao Tomé et Principe 3-1. À noter que la veille, le Nigeria a aussi validé son ticket, non pas à cause de sa victoire 1-0 à Porto Novo face au Bénin, mais plutôt à cause du match nul concédé un peu plus tôt par la Sierra Leone au Lesotho.
La suite de ces éliminatoires aujourd'hui avec 8 matchs, mais un seul ticket à prendre.
Tout à fait. Et ça ira soit pour le Malawi ou l'Ouganda dans le groupe B dominé par le Burkina Faso déjà qualifié. Ces deux équipes vont s'affronter dans un duel sans merci à Blanty. Match à suivre à 16h temps universel. Les crânes ne doivent amener qu'un nul pour être tirés d'affaire. Les Burkinabés, eux, affronteront le Soudan du Sud pour l'honneur. Il faut noter que tous les autres matchs n'ont aucun enjeu. Dans le groupe D, déjà assuré d'être du voyage au Cameroun l'an prochain, le Gabon et la Gambie se rendront respectivement en Angola et en RDC. Dans le groupe H, l'Algérie qualifiée est déjà sûre de finir leader, reçoit le Botswana. Et puis on assistera à une belle affiche dans la poule G entre l'Égypte et les Comores. Un match qui déterminera le premier du groupe. Suite et fin de ces éliminatoires demain, avec encore 5 tickets à prendre.
Dans l'actualité également, la fin du tour cycliste du Mali à Bamako.
Une cinquième et dernière étape sous forme d'une boucle de 126 km autour de la capitale. Fitoi au sprint de Burkinabé Paul Demont, mais pas de quoi bouleverser le classement général de ce tour dénommé Tour de la Paix, dominé par le Malien Issaka Koulibaly avec 29 secondes d'avance sur son compatriote Seydou Djiré et 1 minute 20 secondes sur le Burkinabé Souleymane Kone.
Boxe à présent avec l'épilogue de la 3e édition du championnat Zone 3 à Kinshasa en RDC.
Exactement Idrissa, et une première plutôt satisfaisante pour le pays. Les précisions avec notre correspondant sur place à Kinshasa, Valdo Simbo Yamba.
C'est dans une totale satisfaction exprimée par les athlètes et dirigeants que s'est clôturée cette 3e édition du championnat d'Afrique Zone 3 des boxe. Bertrand Meidunga est le président de la Zone 3.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous arrivons au terme de cette compétition. très riche en rebondissements. Et surtout, nous avons assisté à une semaine folle de la boxe africaine. Et j'en suis le premier à être heureux.
Bertrand Meidouga reste bien confiant quant au niveau de sa zone.
Le niveau était très élevé. Je peux vous le dire, pas parce que c'est ma zone, nous avons assisté à une très très belle compétition.
À domicile, les boxeurs de la RDC ont fait forte impression en occupant la première place pour un total de 24 médailles. David Chama, l'un des 9 médailles d'or et capitaine de la RDC, tourne son regard vers les Jeux Olympiques.
Bientôt, là, je vais quitter le pays pour aller dans mon camp d'entraînement. Et là, je vais encore forger mes mains jusqu'à ce que je vais arriver aux Jeux Olympiques pour arracher encore une médaille olympique.
Ce qui demeure également l'objectif de la Fédération Congolaise de Boxe. Ilunga Luyoyo en est le président.
Pour le moment, nos objectifs, c'est vers le Japon.
Sur le podium, l'on retrouve les Kenyans avec 12 médailles, dont une en or et une médaille en or également pour le Cameroun avec ses 6 médailles remportées. Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le FCC, le Front commun pour le Congo, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila, ainsi que le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, déclinent leur participation au gouvernement dit de l'Union sacrée. Un gouvernement dont la formation est toujours attendue, plus de 60 jours après la nomination du Premier ministre Sama Lukonde. Un refus d'entrée au gouvernement qui divise la classe politique. Des précisions avec notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba.
Dans les communiqués différents, le FCC et le PPRD soulignent leur volonté de ne pas participer au gouvernement toujours attendu de Sama Lukonde. Ce dernier a été nommé il y a 2 mois. Ce refus d'entrer au gouvernement est une position logique selon Papiment Tezolo, député national et président de la Nouvelle Dynamique Congo, parti membre de la Coalition des démocrates et du Front commun pour le Congo.
Moi, je pense qu'il est incohérent que le même FCC qui dernièrement a fait échouer le gouvernement puisse encore participer à un nouveau gouvernement. Sinon, pourquoi n'est-ce pas rompre les alliances s'ils pouvaient continuer? Et donc, moi, je trouve ça cohérent et logique que les FCC et les PPD puissent déclarer qu'ils ne sont pas partenaires du gouvernement Sama Lukonde.
Alphonse Ngoï Kasongi, député PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, a, lors d'une sortie sur la radio Top Congo, dit ne pas être concerné par ces communiqués, puisque faisant désormais partie de l'Union sacrée.
Nous ne sommes pas concernés par ces communiqués, étant donné que c'est lui qui l'a lancé à EPRD FCC. Nous ne sommes pas du FCC. Nous sommes là à travailler pour la population, travailler dans la vision du chef de l'État, qui est celle du peuple congolais.
Pour l'analyste politique Pembe Bazin, coordonnateur de la dynamique Les changements, c'est maintenant, proche du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le Front commun pour le Congo a déjà sa place dans l'opposition.
Nous avons maintenant une majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est cette majorité-là qui compose le gouvernement Sama Lukonde. Cet FCC a droit de faire l'opposition. Donc, leur entrée au gouvernement n'est pas un événement parce qu'ils sont déjà au sein de l'opposition parlementaire, déjà au niveau de l'Assemblée nationale.
Cette position du Front commun pour le Congo place l'Union sacrée pour le Congo devant ses responsabilités dans la gestion de la RDC, estime Papi Montezolo.
Je pense que le FCC a pris la bonne décision pour ne pas laisser à l'Union sacrée de naviguer seule pour qu'elle soit la seule responsable de tout ce qui va être comptable à la fin.
C'est donc évident que le FCC reste dans l'opposition, mais une opposition qui doit mieux s'organiser, suggère Maître Bazin Pembe.
L'opposition est constitutionnelle dans notre pays et ils seront respectés parce que le président l'a promis qu'il y aura un porte-parole de l'opposition. Nous demandons aussi aux amis du FCC de s'organiser pour qu'ils désignent un porte-parole de l'opposition.
Tout compte fait, c'est une nouvelle reconfiguration de l'espace politique de la RDC qui est en train de prendre forme. De Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a procédé depuis vendredi au lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril, à Cotonou, Jeannette Fleur à Dandé.
En 15 jours, les candidats en lice doivent parcourir les 77 communes du Bénin pour défendre leur projet de société. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a ouvert le bal au Palais des Congrès de Cotonou. Le chef de l'État sortant est revenu sur les raisons pour lesquelles il a décidé de briguer un second mandat au lieu de se contenter d'un seul, comme il avait promis. Patrice Talon demande à la population une seconde chance pour achever ce qu'il a su bien commencer.
La tendance. On peut renouer avec les bonnes habitudes. On peut commencer. J'y croyais. Vous m'avez confiance. Nous nous y sommes engagés et nous avons démontré ensemble que c'était vraiment possible. Nous avons entamé quelque chose. Si le mandat passé a été simplement pour nous, de nous démontrer à nous-mêmes, de nous donner la preuve à nous-mêmes que nous sommes capables, il nous a alors permis d'espérer que pour les temps à venir, nous allons enfin satisfaire tous nos besoins.
Du côté de l'opposition, on prend d'abord des attaches avant d'aller sur le terrain. C'est le cas de Corentin Kowé qui reste convaincu que Patrice Talon ne sera pas le prochain président de la République.
Nous avons tant souhaité depuis 2016 un consensus autour de l'opposition pour pouvoir battre le président Talon. Je constate qu'aujourd'hui il y a un peu de cafouillage à notre niveau. Il y a des difficultés certes, mais je crois qu'avec la rencontre qu'on vient de démarrer, il y a de l'espoir.
Pour ceux de l'opposition, rester spectateur pour ces élections, il faut une réorganisation complète de l'opposition. Expérience TB du Mouvement Populaire de Libération appelle la classe politique à une prise de conscience.
Il y en a qui parlent beaucoup, mais leur objectif n'est plus au niveau des présidentielles. Parce que tout le temps, ils ont été entretenus par celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Il les connaît, il les maîtrise et il ne peut rien contre lui.
Compte tenu des tensions que le Bénin a connues après le dépôt des candidatures, les populations appellent à la mobilisation autour de la paix et à ne considérer que l'intérêt supérieur de la nation. Adrien Gansou est membre de la société civile.
Il faudrait que chacun se mobilise pour aller accomplir son devoir citoyen et dans la paix, la sérénité. Et nous ne devons pas constituer une menace pour la paix. Les élections doivent être des élections festives. Si nous sommes respectueux des tests de la République, il ne devait plus y avoir des séances où des gens se cultivent la violence.
Les candidats ont jusqu'au 9 avril prochain pour convaincre les populations sur leur capacité à gérer au mieux le pays pour plus de stabilité sur tous les plans. De Cotonou, Jeannette Fleur Adané pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Burkina Faso, la question de l'entretien et de l'hygiène dans les centres de santé fait l'objet de controverses, notamment sur les réseaux sociaux. Un débat suscité par la publication de photos montrant la vétusté et l'insalubrité dans des centres de santé publique. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, des agents de l'hôpital Sourou-Sanou, le plus grand centre de la ville, étaient en mouvement d'humeur. Le syndicat estime que rien ne va. Yaya Traoré, secrétaire général de la sous-section du syndicat.
Nous avons les problèmes d'eau et pour lesquels nous avions effectivement fait un sit-in au mois de décembre qui n'a jusque-là pas trouvé une solution. Et vous savez que sans eau, on ne peut pas parler de santé dans ce contexte de Covid. Et il y a la question des équipements, notamment en radiologie, en chirurgie, au laboratoire, pratiquement dans tous les services. Les équipements sont obsolètes et on assiste permanemment à des pannes qui entraînent des arrêts, effectivement, de travail systématique.
De son côté, la direction de l'hôpital se défend. Bakary Sanon, directeur général de l'hôpital Sourou Sanou.
La question de l'eau à l'hôpital, la réalisation de forages. Des utilisateurs, pourquoi dans le privé, les équipements ne tombent pas en panne? Mais c'est dans l'hôpital que les équipements tombent en panne. Il y a des actes de malveillance. Ils sont opérés ici. Des gens sabotent les équipements pour pouvoir aller travailler dans le privé.
Le cas de cet hôpital à Bobo n'est pas un cas isolé. Le manque d'infrastructures adéquates dans les centres de santé du pays est une réalité. Loin de Bobo, à Waiguya, dans un centre de santé, les internautes ont été choqués de voir des photos des lits délabrés des malades via les réseaux sociaux. Abdulaziz Sawadogo est le blogueur qui a lancé cette alerte.
Une connaissance qui était malade. Et voilà, je l'ai accompagné au CSPS du secteur 4. Vraiment, c'est dans ça que j'ai constaté que les matelas sur lesquels les malades dormaient étaient alités. C'était vraiment pas trop ça. C'était complètement paumé et délabré. Fallait le voir pour le croire. Hein. C'est là que j'ai eu le réflexe de prendre des images que j'ai envoyé par la suite sur les réseaux sociaux.
Les usagers des services de santé au Burkina, pour la plupart, pointent du doigt le mauvais état de ces centres. Ali Ouedraogo est un usager à Ouagadougou.
Parfois, toi-même, tu te portes très bien, tu vas à l'hôpital pour accompagner un malade. Tu te rends compte qu'au niveau même des lieux où tu dois t'asseoir et tout, les moustiques ne font qu'à te piquer. On se dit même souvent, c'est comme si on cultive même ces moustiques-là au sein de nos hôpitaux. Le manque de médicaments.
Adolphe Tamini, un enseignant à Bobo du Lasso, est aussi un usager. Lui dénonce la corruption et l'affairisme dans certains centres.
En ce qui concerne l'hôpital Sourosano de Bobo, tu as l'impression que ce n'est plus un centre de santé public, mais plutôt privé. Pour un simple examen de sang, le médecin traitant va te dire d'aller dans une telle clinique. Apparemment, quand tu rentres là-bas, si tu n'as pas les moyens, c'est pas sûr que ton patient va ressortir vivant.
Au regard de la situation difficile dans laquelle se trouvent la plupart des hôpitaux au Burkina, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a visité la semaine dernière plusieurs centres de santé dans l'ouest du pays. Il a reconnu que des centres ne sont pas aux normes et a rassuré que le gouvernement fera des efforts pour une mise à niveau de ces centres de santé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'ex-multimilliardaire malien Babani Futanke Sissoko est décédé hier matin à l'âge de 79 ans. L'origine de sa fortune, qui a toujours fait l'objet de spéculations, n'a jamais été clairement établi. Certains affirment qu'il aurait escroqué des centaines de millions de dollars à une banque étrangère. Sissoko était connu pour ses largesses, distribuant de l'argent à tour de bras, même à des inconnus. À ce qu'on dit, l'homme a reconstruit chaque maison de son village d'Abia, dont il était le maire, jusqu'à sa mort hier. Il avait lancé aussi Air d'Abia, qui comprenait plusieurs Boeing 747. Qui était donc Babani Sissoko? Bagasikoura a joint à Bamako Draman Kouyaté, qui était très proche de l'ex-milliardaire.
Et depuis, il met ça à sa tendre jeunesse, il a commencé l'aventure par le Sénégal.
Oui.
Et je ne sais pas par quel rêve son père lui a dit. Et tout ce qu'il fera dans la vie, il ne faudrait pas qu'il oublie son village natal d'Abia. Mon président Dasson, il ne faut pas oublier d'Abia.
Vous avez parlé du Sénégal. Après le Sénégal, quels sont les pays dans lesquels il a vécu?
Bon, je ne veux pas te dire exactement quel pays. En tout cas, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique là, et en Afrique, il était en France. Il est allé en France, il est allé aux États-Unis, donc il a brassé une histoire du monde africain d'abord. Et tout ce qu'il a eu, il est venu s'installer donc au Gabon avec le vieux Oumar. Donc, à leur âme, c'est quelqu'un dont la vie lui a réussi. Hein. Il donnait de l'argent comme ça, aux gens, jusqu'à avoir l'initiative de construire son village.
Qu'est-ce qu'il a construit à Dabia, son village?
Quand il est arrivé seulement, on a demandé aux villageois, ils ont dit qu'ils sont d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démolissé une grande partie pour mettre là-bas, n'est-ce pas, des habitations en tôle et en contreplaqué. Si tu as 12 chambres dans ta maison, on te donne 12 chambres dans les kiosques là, dans les baraques. Donc, il a caché tous les villages, quand il a construit tous les villages comme ça, et le chef de village, tout le monde a déménagé là-bas. Il a commencé à construire. Il avait déjà amené tout le système d'électricité. Il a éclairé le village.
Comment il a eu tout cet argent-là?
Là, je ne sais pas.
Draman Kouyaté, un proche de Babani Sissoko, décédé hier au Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.